Bon après-midi, bien-aimés. Je continue de rendre grâce à notre Dieu pour le privilège qu'il me donne de poursuivre notre série sur le Décalogue. Donc, le message d'aujourd'hui sera un peu plus long que ceux qui ont précédé dans la série. Donc, je vous remercie d'avance pour votre attention soutenue et pour votre patience. Donc, en premier lieu, rappelons-nous très très sommairement de l'enseignement du troisième commandement. Nous qui avons été sanctifiés par Dieu, nous qui avons reçu son pardon, plus que tous les autres hommes, nous ne pouvons pas mépriser le saint nom de l'Éternel notre Dieu. Nous ne pouvons pas prendre le saint nom de l'Éternel notre Dieu en vain, en pensée, en parole, en action, ni même en inaction. Au contraire, nous devons avoir foi en lui, en tout temps, en toute saison, en toute circonstance, parce qu'il est réellement celui qui est venu. Il est réellement celui qu'il nous a révélé être dans sa sainte parole. Il l'a toujours été, il l'est continuellement, et il le sera pour l'éternité. L'Éternel des armées, Père, Fils et Saint-Esprit. Grand et redoutable. Amen. Ce qui nous amène aujourd'hui au quatrième commandement que nous pouvons lire en Exode, le chapitre 20, les versets 8 à 11, et que je lis de la version, la nouvelle version second révisée. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat. Et l'a sanctifié. Amen. Permettez-moi de vous partager 2 citations d'intérêt en rapport au quatrième commandement. Babylone est appelée la mère des prostituées. Ses filles sont les églises qui s'attachent à ses doctrines et traditions et qui suivent son exemple en sacrifiant la vérité et l'approbation de Dieu, afin de s'allier illégalement avec le monde. La tragédie des siècles, page 382, un livre écrit par Ellen G. White, cofondatrice de l'adventisme du septième jour. Pour vous donner un peu de contexte quant à l'adventisme historique, Ellen White appliquait le symbole de Babylone non seulement à l'église catholique romaine, mais aussi aux églises protestantes qui continuent à adorer le dimanche et rejettent, selon elle, le message du sabbat. Dans le même ouvrage, elle ajoute plus loin, à la page 605, « Le sabbat sera la grande épreuve de fidélité, car c'est le point de vérité particulièrement controversé. L'observation du véritable sabbat, en obéissance à la loi de Dieu, est une preuve de loyauté envers le Créateur. » Selon ces doctrines historiques fondamentales, l'adventiste du septième jour enseigne clairement que l'observance du sabbat est vue comme l'épreuve finale de fidélité avant le retour du Christ. Les premiers adventistes enseignaient que l'adoration du dimanche, le premier jour, était une tradition humaine, introduite par l'Église catholique romaine, qu'ils associent dans la prophétie à Babylone ou à la bête. Ainsi, selon eux, l'observance du sabbat était un signe de fidélité envers Dieu, tandis que l'observance du dimanche deviendrait un signe d'allégeance à la bête dans les derniers jours. Comment observe-t-on le sabbat? Son observance est-elle vraiment l'épreuve qui détermine le salut des chrétiens? Nous revisiterons cet enseignement et répondrons à ces questions à la lumière du témoignage des Écritures plus tard dans le message. Pour bien saisir le quatrième commandement, il faut impérativement que l'on comprenne comment la parole définit le terme « sabbat » dans les pages de l'Écriture. Lisons notre passage à nouveau en Exode 20, 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos, littéralement dans l'hébreu, jour du sabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Littéralement dans l'hébreu, sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, littéralement dans l'hébreu, jour du sabbat, et l'a sanctifié. Donc pour en faire un certain survol en introduction, la parole qualifie le sabbat comme étant sanctifié, consacré à l'Éternel, une chose sainte, le jour du repos consacré à l'Éternel, une sainte convocation et même une fête. Lorsqu'on étudie attentivement l'Ancien Testament, on réalise rapidement qu'il y a plusieurs types de sabbats, mais ils partagent tous un point d'ancrage commun. Ézéchiel 20, verset 12, nous éclaire à ce sujet où l'Éternel affirme « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Les sabbats sont un signe entre l'Éternel et son peuple. Qui dit signe, dit alliance. L'existence des différents types de sabbats ordonnés par l'Éternel à son peuple sont un signe reflétant leur union à lui par alliance. L'alliance entre Dieu et son peuple est le principe unificateur, la réalité fondamentale commune dans laquelle sont ancrées les multiples catégories de sabbats. Au sens le plus large, on peut dire qu'il existe 7 catégories de sabbats dans les Écritures. La première, les sabbats hebdomadaires, duquel traite le 4e commandement spécifiquement. La deuxième, les sabbats de la nouvelle lune, ainsi que la fête des trompettes, soit le nouvel an hébreu. La troisième, l'année sabbatique, à chaque 7 ans, et l'année du jubilé, à chaque 50 ans. La quatrième, la Pâque. La cinquième, la fête du pain sans levain qui durait 7 jours. La sixième, la Pentecôte, célébrée le 50e jour après la Pâque. Et la 7e, la fête des tentes. Ainsi, comme je vous l'ai dit, avant d'en citer la grande variété, l'alliance entre l'Éternel et son peuple est le principe unificateur, la réalité fondamentale qui unifie tous les types de sabbats qui sont assez différents les uns des autres. Et nous verrons que la substance de cette réalité fondamentale n'est autre que Christ Jésus, le seul médiateur par lequel l'homme peut entrer en alliance, en relation, en communion avec Dieu. En Exode, la prescription du sabbat hebdomadaire donnée à Israël renvoie à la création. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier », verset 8, ensuite au verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Le patron a été établi dès la création. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il était appelé à penser les pensées de Dieu après lui et à imiter le modèle de l'Éternel, à l'image duquel il a été créé. Ensuite, cette prescription est répétée à la génération qui verrait la terre promise lors de la republication de la loi par Moïse en Deutéronome 5. Par contre, le souvenir qui devait motiver Israël à observer le jour du sabbat avait drastiquement changé. Lisons Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Observe le jour du sabbat, pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave. Tu as été esclave en Égypte, au pays d'Égypte, dis-je, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. » Remarquez-vous la différence? En Exode, l'Éternel renvoie Israël au commencement, au patron de la création. Mais en Deutéronome, l'Éternel renvoie à son œuvre de rédemption. En cela, depuis l'Ancien Testament, on peut déjà entrevoir une progression dans la révélation par rapport à la notion du sabbat. Et nous n'avons même pas encore abordé ce que nous clarifie le Nouveau Testament à ce sujet pourtant. En Exode 35, 2 et 3, on lit « On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Et effectivement, en Nombre 15, 32 à 36, l'Éternel a ordonné que soit mis à mort un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Puis il a été lapidé par l'assemblée d'Israël qui a obéi à Dieu. Arrivé au Nouveau Testament, on finit par comprendre que ce vers quoi pointe ultimement le sabbat est plus que précieux et infiniment grand. C'est la raison pour laquelle Dieu exigeait la peine de mort pour la profanation interdite du sabbat. L'apôtre Paul donc de dire en Galates 3, 23, 24, « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un conducteur, un pédagogue, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Amen. Ce qui met fin à notre introduction. Arrêtons-nous maintenant plus minutieusement aux détails du quatrième commandement. « Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » L'Éternel définit très clairement ce que signifie son sabbat en ce qui concerne le quatrième commandement. Le mot « sabbat », aussi valablement traduit par « repos », signifie littéralement « cesser de travailler ». Je ne vous apprendrai rien en vous disant que de cesser de travailler présuppose nécessairement d'avoir travaillé au préalable. Le verset 9 précédant la définition du sabbat nous indique clairement la séquence à suivre. « Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Ensuite, tu prendras du repos. » L'Éternel nous renvoie au commencement, avant même qu'il ait créé l'homme. Il nous renvoie au modus operandi, mode opératoire de l'original, du Créateur. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Petite parenthèse, lorsque la parole dit que l'Éternel s'est reposé le septième jour, cela fait référence au fait qu'il ait complété son travail de création, qu'il ait cessé de créer de nouvelles choses. Mais il faut comprendre qu'il travaille continuellement en soutenant toute chose par sa parole puissante et par sa gouvernance providentielle de toute chose qui accomplit tous ses desseins. Fin de la parenthèse. Après que l'Éternel ait planté le jardin en Éden et y ait placé Adam qu'il avait formé, il nous est dit en Genèse 2,15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. » pour le cultiver et pour le garder. Dieu le plaça dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. En d'autres mots, pour l'entretenir, l'embellir, l'étudier, le protéger, pour travailler. Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur ce fait? Parce qu'il y a des chrétiens qui, dans leur cœur ou par leur mode de vie, croient à tort que d'avoir à travailler est une erreur de parcours. Que le fait d'avoir à travailler ne faisait pas partie du plan de Dieu au commencement. Et que de travailler est une punition, un châtiment, une malédiction de Dieu pour l'homme. Réalisons-nous que la toute première entreprise scientifique tire son origine au commencement, dans le jardin, quand Adam donna un nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Cela nous est rapporté en Genèse 2:20. Nous entendons souvent parler du fait qu'il était seul et que Dieu lui ait fait une aide semblable à lui, et c'est absolument essentiel, mais très rarement méditons-nous sur les profondes implications de ce qui a précédé. Le psaume 147, verset 4, nous dit de l'Éternel qu'il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages de la planète Terre. Vous imaginez-vous ? Genèse 2, 19 nous dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. La parole ne nous dit pas que Dieu lui a dit de les nommer, mais plutôt qu'il les lui a amenés pour voir comment il les appellerait. Qu'a-t-il fait en réponse, Adam ? Dans un premier temps, il a pensé les pensées de Dieu après lui. Comment ? En reconnaissant le besoin de nommer tous les animaux. Et en second lieu, il a œuvré, il a travaillé, comme son Créateur avant lui, en donnant effectivement un nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Par conséquent, non seulement le plan de Dieu a toujours été que l'homme travaille, mais la portée de cet appel était d'envergure exhaustive. Maintenant, après la chute, cette capacité exhaustive que pouvait posséder l'humanité est désormais frustrée par le péché et réduite à la futilité, la vanité, en ce sens que le labeur est difficile, la motivation est vacillante ou carrément absente. Les résultats positifs, les bons fruits ne sont pas garantis. Et ultimement, il n'y a jamais assez de temps, car l'homme, tout homme, guetté par la mort, est destiné à retourner à la poussière d'où il a été tiré. En dépit de toutes ces choses, Dieu ne nous laisse pas d'échappatoire quant à notre devoir de travailler. Ses attentes à ce que nous soyons actifs par notre ouvrage demeurent, d'où l'exigence de travailler 6 jours et de faire tout notre ouvrage dans le 4e commandement. C'est une obligation morale de l'Éternel qui n'est pas sujette à changement, même si, comme nous le verrons, le Nouveau Testament nous enseigne que l'observance du sabbat et ses sanctions ont radicalement changé après la croix. En termes d'application de ce principe, pour nous qui sommes chrétiens, il est important pour nous de garder nos cœurs, de nous soumettre à Dieu et de ne pas nous laisser séduire par la philosophie du monde s'appuyant sur les traditions des hommes et non sur Christ. Les traditions des hommes changent constamment, mais la parole de Dieu reste la même éternellement. À notre époque, la vision de rêve est de ne pas avoir à travailler, de faire de l'argent facile et rapide, de prendre notre retraite au plus tôt et profiter de la vie en voyageant, en dépensant, en faisant tout sauf travailler. Selon l'esprit de l'âge, plutôt que de glorifier Dieu en reproduisant le modèle qu'il nous a donné, le but de l'homme, le sens de la vie, est plutôt la recherche incessante de son propre plaisir, moi, 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 de faire tout ce que bon lui semble, sans se soucier des injonctions de Dieu. Après tout, on n'a qu'une seule vie, proclame-t-il. YOLO, mangeons et buvons car demain nous mourrons, essentiellement. Il ne faut pas que nous nous laissions séduire, ni convaincre par ces désirs pervertis, ces affections désordonnées qui vont à l'encontre des desseins de Dieu. Nous devons continuellement étudier et méditer sa sainte parole afin de nous rappeler que nous vivons dans le monde qu'il a créé et que ce sont ses lois qui maintiennent l'univers, qui régissent notre monde et qui dirigent le cours de l'histoire et de nos vies. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, nous dit la sagesse de Dieu en Proverbe 12, 27b. Par simple observation, on peut constater que les hommes qui sont en rébellion contre la réalité créée et maintenue par Dieu en paient le prix très cher. Ils sont plus enclins à devenir tristes, sans but, à tomber en dépression, à perdre le goût de vivre, à voir leur santé se détériorer plus rapidement et même à mourir plus tôt. Des études appuient ces observations et ce n'est pas étonnant car la parole nous dit que ceux qui pêchent contre la sagesse détruisent leur propre âme. Et ceux qui haïssent la sagesse de l'Éternel aiment la mort. Proverbe 8, 36. Sans sagesse divine, la trajectoire tend vers la mort. Le produit obtenu est une culture de la mort. Et la destination certaine est la mort non seulement physique, mais éternelle. Quant à nous, prenons plaisir à être actifs, à travailler en toutes choses, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que nous recevrons de lui l'héritage impérissable pour récompense. Notons que notre travail ne se limite pas seulement à nos emplois respectifs, mais inclut absolument tout ce qui nous pousse à l'activité, à la gloire de Dieu. Que ce soit nos emplois, nos entreprises, de prendre soin de nos enfants, de prendre soin de nos parents, de prendre soin de la maison, de faire du bénévolat, d'exercer l'hospitalité, de servir dans les fonctions ecclésiales, de perfectionner nos appels respectifs, le fidèle labeur dans les différents ministères et dons que nous donne notre Dieu, etc. Les seules limites ne sont que notre créativité et notre sens de l'initiative. Portons maintenant nos regards spécifiquement vers le sabbat lui-même, dans le quatrième commandement. Dans l'Ancien Testament, le sabbat n'était pas en premier lieu une journée d'adoration, mais bel et bien une journée de repos. L'ordonnance d'adoration en assemblée, semaine après semaine, n'existait pas encore dans l'Ancien Testament. À cette époque, l'adoration était bien plus centrée sur la pratique en famille et prescrite en de très méticuleux détails dans la vie quotidienne par les ordonnances cérémonielles de la loi de Moïse. C'est beaucoup plus tard, dans la période intertestamentaire, que s'est développée la pratique du rassemblement à la synagogue pour la lecture et l'enseignement des Écritures, jusqu'à ce que, finalement, le Nouveau Testament exige aux chrétiens de s'assembler en congrégation pour adorer avec régularité. Par conséquent, le repos qui était requis par le sabbat de l'Ancien Testament et l'ordonnance d'adoration en assemblée du Nouveau Testament sont deux notions distinctes, même si elles sont intimement liées l'une à l'autre. Le repos dont il est question dans l'Ancienne Alliance pointait vers la réalité du salut, la rédemption, la délivrance et la vie en abondance que seul Dieu peut offrir par son rachat. Ainsi, dans l'ombre des choses à venir, l'Éternel voulait qu'Israël cesse absolument tout leur labeur, en gage de leur confiance absolue en Dieu, en son labeur, en sa provision continuelle et suffisante, ainsi qu'en son œuvre rédemptrice. La transgression du sabbat révélait simplement l'absence de foi, car l'abandon total et absolu que demandait Dieu ne pouvait trouver obéissance que par la foi. La manne que Dieu faisait miraculeusement tomber du ciel dans le désert était un glorieux exemple de sa pourvoyance, avant même que la loi entière ait été donnée à Israël. Nous avons eu un bref aperçu quant à la révélation progressive au sujet du quatrième commandement. En Exode, l'Éternel enracine la notion du sabbat dans le modèle de la création, au commencement, comme je vous l'ai déjà dit, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. En Deutéronome, l'Éternel enracine la notion du sabbat dans son œuvre rédemptrice. Verset 15 d'Exode 5. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. » Est-ce une contradiction? Absolument pas. C'est plutôt le complément qui finalise le portrait typologique de l'histoire de la rédemption. Le tout est fermement ancré dans la réalité fondamentale de l'union alliancielle avec Dieu. À la création, l'Éternel Dieu avait fait alliance avec l'homme, mais l'homme a transgressé cette alliance à la chute. Et son péché lui a mérité le salaire de la mort. Alors qu'il était au commencement, au-dessus de toutes les œuvres des mains de l'Éternel, l'homme a été assujetti par le règne du péché et de Satan. L'homme avait donc nécessairement besoin de l'intervention miséricordieuse et divine de l'Éternel pour le libérer de sa captivité. Et l'Éternel y pourvoirait ultimement par le salut en Jésus-Christ, une promesse promptement faite après la chute en Genèse 3:15. En Égypte, la puissante délivrance opérée par l'Éternel pour Israël de l'esclavage était son témoignage de la rédemption à venir et éternelle qu'il allait opérer en triomphant contre le diable à la croix, en s'introduisant en chair et en os dans l'histoire de l'humanité, en la personne ressuscitée et couronnée de Jésus-Christ. Au cœur du repos, du sabbat que devait observer Israël semaine après semaine, était la victoire de l'Éternel dans le repos rédempteur pour le corps des enfants d'Israël et toute vie humaine ou animale qui était sous leur responsabilité. Et ce repos rédempteur pour leur corps pointait vers le plus que précieux, infiniment grand et victorieux rédempteur Jésus-Christ, en qui tout homme est invité à recevoir le repos de son âme par la foi. Le peuple d'Israël était donc à la fois une représentation d'Adam dans le jardin d'Éden, qui n'a pas réussi à obéir au commandement de Dieu et vivre, et de l'Église du Christ qui, elle non plus, n'est pas capable par elle-même d'obéir à Dieu pour obtenir la vie éternelle. Autrement dit, qu'il s'agisse d'Adam ou de l'Église, ces deux versions de l'humanité ont désespérément besoin de la rédemption de l'Éternel, le Sauveur, et ce, dans la même mesure. À la lumière des différentes catégories de sabbat présentées plus tôt, il ne fait aucun doute que l'expression suprême du principe du sabbat dans la loi de Moïse est l'année du jubilé, qui est annoncée par les sons de la trompette au jour des expiations, Yom Kippour. En cette année-là, chaque 50 ans, après 7 fois 7 années sabbatiques, donc l'année suivant la 49e année, la liberté devait être publiée dans tout le pays. Ainsi, les captifs israélites pouvaient être rachetés par leurs familles respectives ou se racheter eux-mêmes. Les dettes étaient remises, c'est-à-dire effacées, annulées, pardonnées. Les propriétés pouvaient être récupérées par les familles qui en étaient les propriétaires originaux, selon leur tribu. Et il fallait même donner une année entière de repos à la terre aussi, sans y semer et sans y moissonner. Permettez-moi de vous citer un commentaire très perspicace de Christian David Ginsburg sur Lévitique 25:9 à ce sujet, tiré de l'ouvrage de C.J. Ellicott. À la fin du grand jour des expiations, quand les Hébreux réalisaient qu'ils avaient la paix, la tranquillité d'esprit, que leur Père céleste avait remis, c'est-à-dire annulé leur péché, et qu'ils étaient désormais unis avec lui à nouveau, par le pardon de sa miséricorde, tous les Israélites étaient appelés à proclamer à travers tout le pays, par 9 sons de trompette, que chacun d'eux aussi avait donné du repos à leur terre, que chacun d'eux aussi avait libéré toute propriété ou bien familial ayant été perdue en raison d'une dette, et que chacun d'eux aussi avait libéré tous les esclaves qui étaient leurs frères hébreux, de façon à ce qu'ils retournent à leurs familles respectives. Tout comme Dieu a remis, annulé les dettes de l'Israélite, l'Israélite aussi devait remettre, annuler la dette de ses débiteurs, c'est-à-dire la dette de ceux qui lui doivent quoi que ce soit. Fin de la citation. C'est la raison pour laquelle le jubilé est l'expression suprême du principe du sabbat dans la loi de Moïse. Notre Seigneur Jésus y fait référence lorsqu'il nous montre à prier dans le Notre Père, en Matthieu 6, 9 à 13. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Signifie littéralement « remets, efface, annule nos dettes, comme nous remettons, effaçons, annulons aussi les dettes de nos débiteurs. » Le jubilé était l'année de grâce de l'Éternel qui pointait vers l'accomplissement ultime en Jésus-Christ et la rédemption qu'il allait opérer. L'invitation aux hommes, aux femmes, aux enfants de toutes les nations à entrer dans son repos. Cela nous est clairement confirmé lorsqu'il nous est rapporté en Luc 4, 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est à la lumière de cet accomplissement en Jésus-Christ qu'un changement radical est opéré dans la Nouvelle Alliance par rapport au jour du sabbat. De même que les autres types de sabbat. Leurs principes demeurent éternellement, mais les ordonnances et la sanction de peine de mort y étant reliées dans la loi de Moïse ont ainsi été abolies. Il en est de même pour toutes les fêtes qui étaient de sainte convocation et consacrées à l'Éternel. Paul donc de dire en Colossiens 2, 13 à 17, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Christ vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Autrement dit, la substance de ces ombres est Christ lui-même. Le changement de la centralité du septième jour au premier jour de l'ancienne à la nouvelle alliance s'explique par la centralité du Christ lui-même, la centralité de son œuvre triomphante à la croix pour la rémission des péchés de son peuple, de ses brebis, de tous ceux qui ont cru en lui par la foi et par anticipation dans l'ancienne alliance, tous ceux qui ont cru en lui à l'époque de l'Église primitive et tous ceux qui croiraient en lui à l'avenir jusqu'à la fin des temps. Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, Matthieu 28, 1, Marc 16, 2, Luc 24, 1, Jean 20, 1. Il est apparu aux disciples le premier jour de la semaine, Jean 20, 19, et il a envoyé son esprit à la Pentecôte, qui était le lendemain du sabbat de l'Ancienne Alliance, donc le premier jour de la semaine, Actes 2, 1 à 21. Nous voyons bien dans le livre des Actes que les Juifs se reposaient le septième jour de la semaine, mais se rassemblaient le premier jour de la semaine, Actes 20, verset 7, le jour du Seigneur, pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, Actes 2, 42. Une citation de Gary North nous éclaire à ce sujet. Le témoignage de l'Église est qu'il existe bel et bien un jour très spécial de célébration, de festin et de partage des bénédictions du salut. Si l'Église primitive dans l'Israël du premier siècle avait désiré le repos plus que l'expérience de la véritable communion, Elle se serait réunie pour la communion, le sabbat hébraïque, car les autorités romaines reconnaissaient aux prêtres le droit d'imposer un jour de repos. Mais l'Église primitive a rompu avec le repos en se réunissant le premier jour de la semaine pour célébrer la communion le soir, ce jour-là. Ils se reposaient le jour du sabbat hébraïque, travaillaient le jour du Seigneur et se rassemblaient le soir. Ils se reposaient, en supposant qu'ils le faisaient, ce qui est raisonnable, un jour différent de celui du culte, du moins en Israël. Dans les villes païennes de l'Empire romain, il est probable qu'ils ne pouvaient même pas se reposer un jour sur sept, mais ils célébraient le dimanche soir après le travail. Fin de la citation. Le repos physique et terrestre représente la réalité spirituelle du repos en Dieu. Hébreux 4, 9 à 11 de dire « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et Hébreux 4, 1, 3, 1 à 3a, nous expliquant, nous exhortant, nous rassurant. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Le psalmiste de dire au psaume 118, 19, 20, « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » Jésus de dire en Jean 10, 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. » Et d'ajouter en Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Serviteur, entre dans mon repos est l'invitation de Christ le Sauveur à tout homme, femme ou enfant. Quelles sont d'autres implications et applications de tout cela pour nous, chrétiens du 21e siècle? D'abord, il faut répondre à l'adventisme historique d'Ellen G. White qui enseigne que l'Église adventiste du septième jour est l'Église du reste et que de ne pas adorer le septième jour peut coûter le salut à un chrétien. Le sabbat tire sa signification essentielle du fait qu'il témoigne d'une alliance fondamentale et vivifiante entre Dieu et l'homme. La source de cette vie, c'est Dieu, non pas la loi, ni le sabbat en lui-même. Après la captivité, Israël observait rigoureusement le sabbat, l'appliquant à l'homme, à la terre et aux animaux. Mais cette forme extérieure n'apportait aucune vie. Ils niaient le sabbat en se confiant dans leurs œuvres, dans leur lignée génétique, c'est-à-dire leur descendance d'Abraham. Et ils sont morts dans leur aveuglement et sans entrer dans le repos de Dieu. L'observance du sabbat ne les a pas sauvés, eux qui ont au contraire nié et crucifié le Seigneur du sabbat. Leur insistance sur le fait de n'effectuer absolument aucune œuvre, pas même de miséricorde ou de nécessité, était en elle-même une œuvre humaine, une fierté orgueilleuse dans leur capacité à accomplir la loi. Et l'Église adventiste du septième jour, avec sa croyance, se rend coupable d'une variante de ce pharisaïsme. La foi plus quelque chose d'autre. Jésus plus le sabbat du septième jour. Un autre évangile, un faux évangile, un chemin vers la perdition. Le sabbat est une source de vie pour l'homme qui cherche qui cherche la vie auprès du Seigneur exclusivement et qui se soumet à Dieu dans son action, dans toute la création, en tant que grand recréateur. Le sabbat est bien plus qu'une observance extérieure et ne peut être associé à aucune confiance humaniste dans les œuvres de l'homme, ni dans celles de l'État ou de l'Église, comme source de repos ou de salut. C'est ce qui met fin à notre réponse aux adventistes. Mais qu'en est-il pour nous? Comment devons-nous donc comprendre et mettre en pratique le sabbat? Contrairement à Israël dans l'Ancienne Alliance, nous n'attendons plus l'ultime délivrance spirituelle de l'esclavage du péché et de Satan. Nous avançons en proclamant la bonne nouvelle de délivrance et du glorieux règne de Jésus-Christ. Le dimanche, soit le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, comme aujourd'hui, nous nous rassemblons, nous nous réjouissons en l'Éternel pour la victoire accomplie de Christ le Seigneur sur le bois du calvaire. En toute quiétude d'esprit et pleine assurance en notre Dieu trinitaire, nous nous reposons allègrement de tout notre ouvrage ce même jour. Puis, comme des soldats, nous nous déployons et travaillons les six jours suivants à l'avancement du royaume et de l'évangile de notre roi dans tous les domaines de nos vies, dans nos postes respectifs. Nous continuons à vaincre nos péchés, vaincre le monde, vaincre le malin, par notre croissance dans la connaissance, l'obéissance et la grâce de Christ, là où il nous a placés. Il n'est pas toujours possible de nous reposer de nos labeurs le même jour que le jour du Seigneur, le dimanche, mais qu'on ne se juge pas l'un l'autre pour cela. Notre Seigneur veut que notre conscience, illuminée par les saintes Écritures, soit notre juge et personne d'autre, pas les autorités de l'État ni ecclésiales. Si nous ne sommes pas convaincus de l'importance du principe d'avoir un jour de repos et de travailler les six autres, Dieu lui-même nous illuminera éventuellement selon sa volonté. Par contre, la seule exigence qui est non négociable et légitimement sujette à discipline ecclésiale, c'est le rassemblement des saints pour adorer le Seigneur le dimanche sur une base régulière. Hébreux 10, 25, nous exhortant, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » D'autre part, j'ai mentionné que les principes du sabbat demeurent éternellement, et j'aimerais nous inviter à réfléchir à la portée, l'étendue et à la largeur d'application de ces principes dans nos vies. Nous avons besoin de repos. Nous avons besoin du sabbat pour vivre réellement et vivre pleinement. Mais sans la foi, nous ne pouvons connaître le vrai repos, ni accorder de repos aux êtres humains, à la création animale ou à la terre. Nous devons comprendre à partir du quatrième commandement que la plus profonde réalité spirituelle vers laquelle elle pointe ne signifie pas pour autant que l'Éternel ne se soucie pas de sa création tout entière. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, dit-il en Exode. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi, ajoute-t-il en Deutéronome. L'employé sous notre responsabilité, en tant que chrétien, homme ou femme, l'Éternel en fait sa préoccupation. Le bœuf, l'âne ou n'importe quel animal, bétail ou animal de compagnie sous notre responsabilité en tant que chrétien, l'Éternel en fait sa préoccupation. L'étranger qui se joint à l'entreprise ou le territoire sous notre responsabilité en tant que chrétien, l'Éternel en fait sa préoccupation. Ça va même plus loin encore. En 2 Chroniques 36, 21, il nous est dit, Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de tout de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Dieu a ordonné que la terre d'Israël bénéficie d'un repos tous les 7 ans, d'une année sabbatique, en Lévitique 25:4. Or, pendant des siècles, Israël a transgressé ce commandement, ne laissant pas la terre se reposer. Tous les 7 ans, il devait y avoir une année sabbatique pour la terre, et la rébellion d'Israël a accumulé 70 années sabbatiques manquées, soit 490 ans de désobéissance. Donc Dieu les a exilés 70 ans pour que la terre se repose durant le nombre total d'années de repos dont elle avait été privée. Et oui, le jardin, la ferme, la terre agricole sous notre responsabilité en tant que chrétiens, et même le pays dans lequel il nous a placés, même s'il n'est pas entièrement sous notre responsabilité, l'Éternel en fait sa préoccupation. Lorsque l'homme détruit le sol, empoisonne la nourriture et pollue l'air, il prononce carrément une peine de mort contre lui-même. Les hommes ne peuvent ignorer les principes du sabbat pour la terre et les ressources naturelles qu'à leur propre risque et péril, au prix du jugement et de la mort. La sentence de mort de l'ancienne alliance que devaient prononcer les autorités pour la transgression du sabbat est sans aucun doute abolie après la croix. Mais il est clair que la peine de mort est toujours à l'œuvre par la providence de l'Éternel dans l'histoire. Et les nations qui exploitent abusivement de la terre et de ses ressources sont condamnées à périr. Quant à nous, par contre, dans nos efforts de nous soucier de la création de notre Dieu, Ne pensons pas et n'agissons pas avec panique et folie comme la secte humaniste démoniaque de l'environnementalisme qui vénère la création terrestre et animale, mais qui considère les humains comme des parasites à exterminer dans l'agenda de dépopulation. Plutôt, efforçons-nous de raisonner et d'agir en sanctifiant Christ le Créateur et sa parole, guidé par son esprit pour promouvoir les principes bibliques de la gestion de notre planète. L'Éternel se soucie de sa création tout entière. C'est ça la seigneurie de Christ. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il a obtenu le rachat de la création en entier à un point tel que, comme nous, la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Comme nos corps, Christ va entièrement renouveler toute la création à son avènement. Il demeure donc de notre responsabilité, en tant qu'ambassadeur du royaume, d'en prendre le meilleur soin, autant que faire se peut, en faisant intentionnellement valoir les droits de la couronne de Jésus-Roi, c'est-à-dire en soumettant toutes nos pensées, nos actions et nos conseils quant aux ressources naturelles, à l'obéissance aux commandements et aux principes de la parole de Christ. Finalement, en ce qui a trait à la réalité de la victoire et à la liberté qui découle du quatrième commandement, un chrétien ne peut pas devenir esclave volontairement. Le Nouveau Testament nous l'interdit. 1 Corinthiens 7, 21 à 23. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. 1 Thessaloniciens 4, 11, 12, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Dans notre contexte, notre plus grande occasion de chute à ce sujet est l'État-providence. Ce système où le gouvernement veut jouer le rôle d'un père, d'un pourvoyeur pour les citoyens dans tous les domaines de leur vie. Il faut qu'on comprenne qu'une dépendance indispensable face au gouvernement, ainsi que de la protection sociale et économique qu'il offre, est une fausse sécurité. C'est en réalité une forme d'esclavage. On remercie le Seigneur qu'il utilise même les systèmes antibibliques des rebelles pour bénir et prendre soin de ses enfants. Mais ce n'est pas un prétexte pour rester dépendant de ces systèmes. Ce n'est pas un prétexte pour ne pas planifier, œuvrer, travailler d'arrache-pied en voie de s'en libérer, ou que nos enfants s'en libèrent, ou que nos petits-enfants s'en libèrent éventuellement. N'entendez pas ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de nous culpabiliser si nous sommes présentement contraints de dépendre de la pourvoyance de l'État. Nous vivons dans un monde déchu, mais j'essaie de nous encourager à raisonner bibliquement et de nous conscientiser quant à la direction que doivent prendre nos vies dans ce monde déchu, à la lumière des saintes Écritures. Notre assurance de la vie éternelle en Christ Jésus n'est pas une excuse pour ne pas nous efforcer à mettre en pratique tout ce qu'il nous a prescrit dans tous les domaines de nos vies. Et cela inclut aussi nos finances, aussi tabou que le sujet puisse être. Ce que Dieu veut de nous, c'est le renouvellement de notre pensée de manière à discerner sa volonté agréable et parfaite. Ce n'est pas agréable à Dieu qu'un chrétien pense qu'il est profitable ou souhaitable de devoir dépendre du gouvernement en tant que pourvoyeur, puisque ça va directement à l'encontre de ses injonctions et de la trajectoire de son évangile. De plus, ça révèle une grande naïveté quant à l'envers de la médaille, à savoir d'être à la merci du gouvernement, la bête qui tyrannise de plus en plus les chrétiens par le moyen de législations antichristes et antibibliques. Sans compter le fait que chaque année qui passe, le système s'approche du jour où il s'écroulera sous son propre poids, parce qu'il opère en rébellion contre Dieu dans le monde que Dieu a créé. La complaisance et un faible sens des responsabilités ne sont pas des vertus, ce sont des péchés. Et pour cela, cher peut être le prix à payer. Ne pensez pas que l'appel soit à devenir riche. Faisons-le à la gloire de Dieu si on le peut quand même. Mais l'appel est plutôt pour nous de penser et de marcher comme des hommes et des femmes réellement rachetés par Jésus-Christ, progressivement sanctifiés par son Esprit et toute sa loi-parole, la loi de liberté. Quant aux résultats, ils appartiennent à notre Dieu. Notre priorité et notre responsabilité sont simplement l'obéissance et la fidélité. Nous sommes appelés à marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dès le début des Écritures, après la chute en Genèse 3:15, l'orientation, la direction à suivre et l'espérance sont rivées vers le futur. On doit regarder et œuvrer en prévision pour le futur, pas en servitude au passé ou ni en restant prisonnier du moment présent, mais toujours les regards pointés vers le futur. Il en était de même pour les pères de la foi, pour le reste que Dieu s'était réservé parmi Israël, pour l'Église primitive, pour les réformateurs, pour les puritains, pour les huguenots et pour nous aussi aujourd'hui. Nos efforts quant aux choses terrestres doivent être déployés par amour pour Dieu d'abord, par amour pour notre prochain, mais par amour spécialement pour les générations de saints, de chrétiens à venir. Nous ne devons pas oublier que nous jouirons ultimement ici-bas, sur terre, des récompenses de la vie à venir. Nous hériterons de la terre, une terre renouvelée à laquelle sera unie les cieux. Une terre glorifiée où nous marcherons en communion avec Dieu et verrons Christ face à face pour l'éternité. Le sabbat, propulsé par la foi, pointe en arrière vers le repos du Créateur au commencement pour modèle, pointe en haut vers l'assurance de la grâce et la victoire totale de Dieu, et pointe en avant en anticipation de la consommation du grand sabbat ultime de Christ après le jugement dernier. En vue de cela, empressez-vous donc d'entrer de ce repos par la foi qui mène à la repentance, la foi qui dit « je reconnais mon état de pécheur », la foi qui dit « je ne veux plus pécher », la foi qui dit « Jésus, délivre-moi de mes péchés ». Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et nous, serviteurs qui avons cru et qui continuons de croire en Christ Jésus, nous répondons effectivement à son invitation et nous entrons dans son repos. Amen. Amen. Ô Seigneur, Dieu bon, Dieu grand, Dieu vivant, Dieu rédempteur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette offre, cette invitation que tu nous lances à entrer dans ton repos, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce qui, à un moment alors que nous étions encore des enfants de la désobéissance, ta grâce qui nous a extirpés, qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a amenés à toi, afin que nous marchions en communion avec toi, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour les principes du sabbat. Merci, Seigneur, pour la richesse de ta parole. Et Seigneur, nous te demandons d'illuminer nos cœurs quant aux vérités de ta sainte parole, aide-nous, Seigneur, à grandir en compréhension et surtout en application de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à grandir en obéissance. Viens en aide, Seigneur, à notre manque de foi, ô Éternel. Et Seigneur, que ton esprit puisse puissamment œuvrer dans les cœurs de ceux qui ne sont pas encore venus à toi, ô Dieu. Nous comprenons que ce n'est pas une chose que nous faisons une seule fois. Appeler, invoquer ton nom, crier à ton secours pour notre délivrance du péché. Une fois que tu nous ramènes à la vie en Christ Jésus, c'est quelque chose, c'est un cri de notre cœur quotidien, ô Dieu. Et donc, Seigneur, amène tes brebis à la bergerie. Glorifie-toi, Seigneur. Merci pour la victoire à la croix, ô Éternel. Et merci, Seigneur, pour la manifestation à venir, la pleine manifestation de cette victoire que tu nous réserves, ô Dieu. Que tu sois glorifié, ô Éternel, d'éternité en éternité, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre berger et notre Rédempteur. Amen.